Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Oui, c'est comme ça, on prend une petite pause de 4 mois et quand on revient, on va être là tous les jours pour cette semaine spéciale UFC Paris. Donc après l'histoire du MMA en France, là vous allez tout savoir sur une carte qui s'annonce historique. Et puis avec moi, comme à chaque épisode, monsieur Alessandro, le Mexicain Pitsus.
Hola amigos.
Et puis Jérôme Diaz qui est avec nous. Salut Jérôme.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour le Mexicain.
Ciao.
Et je suis Guillaume Dussault, toujours honoré, ravi d'animer ce podcast. Messieurs, KO saison 4 épisode 2, c'est parti. La carte de l'UFC Paris, 12 combats, il y a 4 Français, Cyril Gane en superstar et 3 autres prêts à exploser. Un William Gomis qui va faire ses débuts dans l'organisation et d'autres qui sont un petit peu plus habitués. On va commencer par le main event, par Cyril Gane. Donc, je le rappelle, hein, Cyril Gane a perdu 3 rounds à 2 face à Francis Ngannou, le champion poids lourd de l'UFC en janvier dernier. Donc, c'était pour la ceinture mondiale, l'unification, puisque Cyril Gane était champion intérimaire. Là, 9 mois plus tard, il remonte dans la cage. Jérôme, à quoi peut-on s'attendre face à Tai Tuivasa, l'adversaire de Cyril Gane qui est classé numéro 3 mondial et qui, sur le papier, nous fait penser à Derrick Lewis, ancien adversaire de Cyril Gane, contre lequel Cyril s'était emparé de la ceinture intérimaire.
Ouais, c'est un combat pour moi très intéressant. J'ai vu Cyril en juillet, avant qu'il parte en vacances et qu'il s'entraîne pour ce combat, et il m'a dit que pour lui, en fait, à part Francis, c'est le plus gros combat qu'il va faire, parce que c'est pas juste un striker sur un coup, c'est un striker sur plusieurs coups. D'ailleurs, son nom, c'est Bam Bam. Voilà, ça veut un peu tout dire. Donc, il est capable d'enchaîner les frappes très lourdes. Bon, lui, il me dit qu'il est meilleur que Derrick Lewis, il est meilleur que Rozenstruik, c'est un meilleur combattant. Je pense qu'il a raison. Je pense que Cyril devra se méfier aussi de ses low kicks. On voit qu'il est très très fort en low kick. Il vient de la boxe et du Muay Thai, Tuivasa. Il a vraiment un gros punch. Ça va être un combat très intéressant et, à mon avis, pas le plus facile pour Cyril. Vraiment.
Sandro, qui est Tai Tuivasa?
J'aime bien quand tu me poses ces questions-là.
Pourquoi tu rigoles, le Mexicain?
Tai Tuivasa, c'est un Australien et il a 29 ans. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jérôme parce que j'avais un peu les mêmes arguments, notamment sur les low kicks. Il y a beaucoup de personnes qui disent que depuis quelques mois qu'en fait ça va être le même combat que face à Derrick Lewis, que face à Jairzinho Rozenstruik, mais en fait non, moi je pense qu'en fait Jairzinho Rozenstruik et Derrick Lewis sont des purs contreurs, c'est-à-dire qu'ils sont assez attentistes, ils attendent vraiment l'opportunité de contrer leur adversaire. Et Tai Tuivasa, alors c'est un très bon contreur.
Il avance tout le temps,
exactement. Il met beaucoup de pression sur ses adversaires et on l'a vu face à Derrick Lewis qui pour moi est sa victoire. D'ailleurs, petit détail, hein, il a battu Derrick Lewis au Texas, sur les terres de Derrick Lewis. Là, il affronte Cyril Gane à Paris sur ses terres. Donc, attention. Mais c'est la victoire un peu qu'il a définitivement propulsé chez les lourds. Depuis cette victoire face à Derrick Lewis, il l'a mis KO, rappelons-le. Il est dans l'équation pour la ceinture. Donc, c'est un très bon combattant. Il ne faut pas se fier non plus à son physique. Il n'est pas aussi sculpté qu'un Cyril Gane ou qu'un Francis Ngannou. Mais il faut faire très attention à ce genre de combattant qui fait partie de ces lourds qui peuvent vous mettre KO en un coup, évidemment, comme beaucoup d'autres. Je pense que derrière Francis, désormais, c'est lui qui a la plus grosse puissance sur un coup.
Complètement d'accord.
Ouais, non, mais franchement, c'est un très très bon combattant et je pense le seul petit défaut peut-être qu'il a encore, c'est que je pense que si le combat dure et justement il est face à un combattant qui aime bien faire durer ses combats comme Cyril Gane, on ne sait pas exactement où se situera son cardio et moi je pense que qu'il faut absolument, enfin pour lui en fait c'est le même schéma que Derrick Lewis face à Cyril Gane entre guillemets, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux qu'il mette en difficulté Cyril très vite dans ce combat parce que sinon je pense qu'il n'aura pas peut-être la caisse physique pour tenir face à Cyril qui est dans ce domaine chez les poids lourds le meilleur.
Alors moi je suis pas sûr sur la caisse, je suis pas sûr, je pense qu'il peut avoir la caisse. Par contre je pense que ça peut se jouer sur le sol et je pense que Cyril a tout intérêt à l'emmener au sol assez rapidement et elle compterait. Je crois pas que Tuivasa soit un mec super fort au sol. Enfin,
je suis d'accord.
On n'a jamais eu l'occasion de le voir en fait vraiment.
Ouais.
Il peut être très fort, je sais pas. Mais il vient vraiment du pied-point. Encore une fois, j'insiste, il a des low kicks mais ultra puissants, assez incroyables. Même quand il touche et même sur ses points, il touche à peine. Les mecs sont sonnés.
Ouais.
Après, il a pas de grand nom. Il a pas de grand nom à son palmarès non plus. Il faut pas non plus trop le survendre. Voilà, il a Stéphane Struve qui a battu quand même Miocic. Ok, le mec fait 2m15. Bon, en tout cas, c'est pour moi, je pense, c'est le plus gros adversaire pour Cyril après Francis Ngannou.
Est-ce qui est bien aussi mine de rien avec Tai Tuivasa, moi c'est ce que j'apprécie dans la décision de l'UFC de l'avoir mis en main event, c'est que certes certaines personnes peuvent regretter qu'il n'y ait pas Curtis Blaydes qui aurait permis à Cyril de répondre à un certain nombre d'interrogations par rapport à sa lutte, mais
c'est vrai que sur le papier, ça fait des années que même nous on dit que sur le papier Curtis Blaydes est peut-être le plus gros problème pour Cyril Gane. Donc c'est vrai qu'on, moi je pense que Curtis Blaydes ça sera peut-être un prochain combat pour
c'est un prochain combat, c'est un combat, mais c'est un combat je pense chiant à regarder, alors qu'avec Tai Tuivasa on sait que ça va être la folie parce que c'est un mec qui ne s'arrête pas, c'est un gars qui lors de ses dernières victoires, là on parle quand même de quelqu'un qui s'était fait virer de l'UFC après 3 défaites consécutives,
j'allais le dire, entre 2018 et 2019 il avait enchaîné 3 défaites,
rappelé à l'arrache parce qu'il fallait des gens pour le retour de l'UFC en période de pandémie,
c'est justement là où il a envoyé Stéphane Struve à la retraite, ouais.
Depuis 5 victoires consécutives, 5 KO et surtout dans ces 5 KO il y a la victoire contre Derrick Lewis et contre Greg Hardy où à chaque fois il traverse des moments un peu compliqués où il se prend des bombes. C'est quelqu'un qui se prend des bombes et qui a l'habitude de s'en prendre puisqu'il a été biberonné par Mark Hunt, qui est une des plus grandes légendes du kickboxing et du MMA. Donc, pour l'UFC, je pense, pour les spectateurs, c'est un bon adversaire potentiel pour Cyril parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se prendre des coups, qui n'a pas peur de traverser la tempête et puis surtout, qui est en constante recherche du chaos.
Et c'est vrai
il a un très gros menton.
Exactement.
Il est prêt à s'en prendre. J'allais dire. Et il fera du striking et il fera le show à Paris.
Et
je pense que l'UFC a cherché ça un peu aussi.
Ouais, et il joue beaucoup sur cet aspect j'ai un menton. Enfin, il joue beaucoup avec ça. Alors après, attention, parce qu'on connaît d'autres qu'on dit pendant des années qu'ils avaient un menton. Puis le jour où le menton lâche, ça fait un peu mal. Mais justement, toi, Jérôme, tu disais qu'il fallait absolument que Cyril l'amène au sol. Alors, je suis pas en désaccord avec ça, mais
ouais.
Je suis pas sûr qu'il faut qu'il base son plan de jeu sur ça. Moi, je pense qu'il faut pas qu'il change en fait, Cyril.
Non. Après,
notamment.
Cyril...
Et je pense que l'aspect lutte va revenir parce que c'est sur ça qu'il a perdu le titre face à Francis Ngannou. Et mais je pense qu'il va pas vraiment changer.
Parce que pour le coup, Francis était meilleur en fait. A prouvé qu'il était meilleur en lutte.
Oui.
Sur le coup, il a fait une démonstration de jujitsu au 5e round, incroyable. Mais je pense que Cyril a les skills, les qualités suffisantes en lutte. Par rapport à Tuivasa, par rapport à Francis, on a vu que non. Mais après, voilà, Cyril, il va faire comme d'habitude. C'est-à-dire, il va essayer d'être très léger sur ses appuis,
ouais, exact.
De toucher sans être touché.
Moi, je pense que c'est toucher
partir,
et
s'écarter,
vite,
et revenir.
Exactement, vite se mettre à distance des overhands de Tuivasa ou des crochets de Tuivasa. Mais je pense qu'il va faire un peu comme ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire piquer, repartir en arrière, piquer, repartir en arrière et
exactement.
Un peu épuiser Tuivasa.
Comme il sait faire en style vraiment kickboxing. Mais s'il voit l'opportunité, je pense qu'il peut descendre et je pense que pour ce combat, mais Guillaume, qui connaît mieux l'interne de ce collectif, de cette team, pourra le dire mieux, mais je pense que Cyril a travaillé un peu plus la lutte, justement pour contrer cette puissance.
Oui, complètement. Ouais, après, et puis c'est ce qu'il avait déjà fait, oui, même contre Jairzinho.
Il a dit que voilà, il avait évidemment travaillé cet aspect de son jeu qu'il n'avait peut-être pas assez développé. Mais Fernand Lopez dit aussi qu'il bosse sur ce combat pour chercher la finalisation. Et quand Fernand Lopez dit ça, on pense que c'est plutôt pour mettre un KO ou un TKO, mais plus, je pense qu'il parlait plus de KO pour le coup.
Mais après, voilà, je connais un petit peu Cyril, et il aime bien combattre à l'instinct, il aime bien rester debout quand même, parce que c'est sa zone de confort. Ouais. Mais bon, on verra. Et c'est un combat, à mon avis, pas facile. Vraiment pas facile du tout.
Ah, c'est clairement pas un cadeau, c'est le numéro 3, Tuivasa, maintenant, chez les poids lourds. Il y a juste Stipe Miocic qui est deuxième, Cyril Gane est premier, et Francis Ngannou est champion. Donc, il n'y a pas, en ce moment, on ne peut pas faire mieux, en tout cas en termes de match-up pour Cyril Gane.
Eh bien, réponse, messieurs, samedi, il y a aussi le co-main event qui passe un peu sous les radars, parce que mine de rien, on a les Français, mais gros co-main event avec Robert Whittaker, ancien champion, contre Marvin Vettori, ancien challenger à la ceinture. Donc c'est bien simple, messieurs, on a le numéro 1, donc juste derrière Israël Adesanya, le champion, Robert Whittaker, contre le numéro 3, Marvin Vettori, l'italien. Jérôme.
Ouais, moi, c'est pas un combat qui me fait rêver. Faut être honnête. Non, mais je suis désolé.
Moi, je voudrais juste dire une chose avant que j'oublie. Je pense que dans n'importe quel autre UFC Fight Night, hein, parce que l'UFC Paris n'est pas un UFC numéroté, je pense que c'est un main event. Dans un autre UFC Fight Night, Vettori face à Whittaker, c'est un main event. Après, quand tu viens de le dire, je viens de réfléchir en deux secondes. Et effectivement, c'est peut-être pas le combat le plus sexy du monde, même si c'est un peu hypant. Parce que c'est deux combattants des poids moyens qui sont extrêmement bien rankés. Et en fait, c'est simple. Ouais, dans leur carrière, ils n'ont que deux défaites. Et c'est des défaites face à Israël Adesanya, qui est le roi de cette catégorie. Quoi.
On est d'accord. Moi, j'aime bien l'idée que les mecs viennent d'Australie pour venir combattre en France. Déjà, moi, je trouve ça cool.
Ouais, puis Whittaker, c'est quand même une superstar du MMA.
Whittaker, voilà, bien sûr. Ouais, c'est... Après, Whittaker, je pense qu'il est vraiment... Il est ranké numéro 1, challenger numéro 1, mais je pense qu'il est vraiment en bout de course. J'adore son style, karaté, un peu comme Cyril Gane, mais vraiment en plus karaté, vraiment, coup de pied d'arrêt, etc. Par contre, Marvin Vettori, moi, je mettrais bien une petite pièce sur lui. Alors, c'est pas le combat de mes rêves, parce que Whittaker, j'y crois plus trop, en fait. Franchement, j'y crois plus trop. C'est un mec qui combat une fois par an, voire une fois tous les deux ans. Il a été champion, ok, il est très bon, mais je trouve qu'en fait, il fait toujours la même chose. Et Vettori est, à mon avis, un peu plus surprenant. On verra.
Ouais, pour une fois, on va pas être d'accord, parce que je pense l'inverse, pour le coup. Je pense que Whittaker est au-dessus, pour moi. Alors peut-être que j'arrive pas à le voir déclinant. Toi, tu le vois peut-être un peu plus déclinant que moi. Moi, je trouve qu'en fait, Vettori fait à peu près, et un combattant lui aussi très polyvalent et très complet, mais je trouve qu'il fait tout moins bien que Whittaker presque. Pour moi, Whittaker donc est un petit peu au-dessus. Mais en fait, ce combat, au-delà d'être une belle affiche, il pose un problème, je pense, à l'UFC, c'est-à-dire que le roi des moyens, c'est Israël Adesanya. Ces deux mecs ont eu deux chances contre Israël Adesanya. Ils ont perdu, donc
je ne vois pas
l'un de ces combattants avoir une troisième chance face à Israël Adesanya. En fait.
J'ai l'impression que c'est un combat d'attente, tu vois, pour meubler un peu, quoi. C'est ça qui me gêne.
Je suis assez d'accord, en fait. Je vois pas un de ces combattants avoir une nouvelle chance pour le titre, face en tout cas à Israël Adesanya.
Sachant qu'on sait que Pereira...
Ouais, je pense qu'ils doivent prier les deux pour que Pereira gagne, quoi. Parce que là, ils auraient peut-être une chance.
On aurait rêvé de voir ça à Paris, quoi. Clairement.
On va parler brièvement de Nassourdine Imavov contre Joaquin Buckley. Donc Nassourdine Imavov, messieurs, qui est dans le top 15 mondial, top 15 du classement UFC, qui affronte l'américain Buckley, auteur du chaos de l'année 2020. Et si c'était lui, finalement, Nassourdine Imavov, le sniper, la prochaine star du MMA français, Jérôme?
Bah, écoute, moi, j'aime beaucoup ce combattant. En même temps, je suis pas sûr. Parce qu'il a pas non plus battu des foudres de guerre. Donc, il a deux victoires consécutives. Il revient sur une défaite contre Philo Wiz, si je ne me trompe. Bon, voilà, moi, je l'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est assez fort. Il gagne par TKO, soit sur les coudes, soit sur des punches.
Bah, son dernier combat face à Chabazian était hyper impressionnant pour le coup. Après, Chabazian était un peu nulle part depuis quelques temps.
Deuxième round, il gagne le deuxième round sur des coudes.
On parlait de Vettori et de Whittaker, c'est des poids moyens. Imadov, c'est aussi un poids moyen qui est ranké pour l'instant 12e de cette catégorie. En fait, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si vous avez la même impression, messieurs, mais moi, je suis comme Jérôme, je vois un vrai talent, je vois quelque chose chez ce combattant, mais je suis toujours un peu frustré par ce que je vois. J'ai l'impression qu'il y a, le talent, mais j'arrive pas à voir. C'est-à-dire que je pense que c'est un combattant qui va s'installer dans cette catégorie aux alentours du top 10. Je pense qu'il sera dans le top 10 assez vite.
Voire top 5.
Ouais, voire top 5. Mais je sais pas s'il a le potentiel pour être champion.
Pour aller
de...
plus haut,
ouais, voilà.
Être champion, ouais.
C'est juste ça, en fait. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois qu'on voit les cartes, on se dit ok, c'est un adversaire qui devrait battre. Et à chaque fois. Il s'impose, enfin depuis cette défaite face à Phil Howes, je trouve très bien. Mais c'est toujours des adversaires où c'est pas qu'il y a pas de challenge, mais on sait qu'il va partir très favori et qu'il va sûrement être au dessus. Et là sur ce combat-là, bah, je pense aussi qu'il va être largement au dessus. Joachim Buckley, on l'a dit, c'est l'auteur du chaos de l'année 2020, mais depuis. Il est même plus dans le top 15 et je suis même
mais
pas sûr qu'il soit dans le top 25. C'est un combattant qui a des fulgurances, mais c'est pas un combattant extraordinaire, moi. Après.
Mais en même temps, je trouve qu'on n'a pas fait de cadeau aux combattants français pour cette UFC Paris, quoi.
Ouh.
Franchement, ah bah oui, non, mais je suis pas sûr.
Jérôme.
Pas sûr, franchement, tu vois.
Enfin.
Bah, déjà pour Gann, Tuivasa, c'est pas un cadeau. Et même pour Imavov, c'est pas un cadeau non plus, parce que, comme dit Sandro, Buckley, tu sais pas en fait. Je sais pas ce qu'il peut faire.
Oui, c'est vrai que c'est un combattant surprenant. Après, bon, c'est pas un cadeau, évidemment, parce que c'est un nom qu'on n'oublie pas par rapport à ce KO en 2020. On rappelle, hein, c'était un coup de pied retourné complètement fou. Peut-être l'un des KO de la décennie. Mais depuis, bah, y a quand même pas grand-chose. Et en tout cas, il est plus dans le top 15, ça c'est sûr. Et je crois qu'il est même plus dans le top 25. Donc, c'est quand même pas non plus proche du niveau de Nassourdine, je pense.
C'est vrai. Non, mais je pense que Nassourdine est largement favori sur ce combat.
Suivre, messieurs, rapidement, très rapidement, les pronostics du main event. on va faire les pronostics main event, co-main event et les Français, le main event.
Compliqué.
Sandro,
vas-y.
Allez, je vais dire Cyril Gane, victoire de Cyril Gane par TKO au troisième round. Voilà.
Ok. Cyril Gane, vainqueur, soumission quatrième ou décision. Donc, si on fait des pourcentages. Pour moi, je suis sur 70-30 pour Cyril.
Très bien. Et pour ma part, Cyril Gane, TKO, quatrième round. Co-main event, Marvin Vettori contre Robert Whittaker.
Moi, je vais dire Whittaker à la décision.
Ah,
majoritaire.
Je mets une pièce sur Vettori, KO.
Ok.
Ouf.
KO, deuxième round.
Et bah pour ma part,
c'est une grosse cote.
Ouais, moi je vois Marvin Vettori, décision unanime. Nassourdine Imavov, Joaquin Buckley.
Nassourdine, TKO, premier round.
Nassourdine, soumission, troisième.
Nassourdine, KO, deuxième round. Ensuite, on va passer, messieurs, à Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda.
Ah.
Jérôme.
Bah, je crois qu'on adore
Benoît
ce combattant. Oui.
Benoît Saint-Denis, c'est un combattant qu'on aime.
Ouais.
Qu'on aime forcément. Depuis son premier combat à l'UFC.
Évidemment.
Il a montré une bravoure incroyable. Incroyable. Une grosse erreur d'arbitrage qui aurait dû arrêter le combat 100 fois. Peut-être une grosse erreur. Je prends des gants parce que c'est quand même Daniel Voirin, son coach. C'est une légende. Qui aurait peut-être dû l'arrêter. Mais un combattant incroyable. Incroyable de résilience, de résistance. Moi, il m'a impressionné sur son premier combat. Sur deuxième, il l'a remporté. Et là, je pense qu'il peut faire un grand truc chez lui. Il s'est marié il y a une semaine.
Exactement.
Donc, c'est pas sûr qu'il soit vraiment au taquet. Il avait promis de pas manger trop et de pas boire. Bon, on verra, mais j'aime beaucoup ce combattant. Il est meilleur au sol et en jiu-jitsu qu'en striking, mais quelle vaillance.
Bien. Que dire de plus ?
Que dire de plus ? Bon, je pense exactement comme Jérôme, c'est un combattant qui est, je trouve, très excitant, très, il est vraiment sympa à voir, en fait. Et il est très rafraîchissant quand tu l'entends parler dans les zones d'interview, toujours très lucide aussi, donc franchement, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit Jérôme, je suis tout à fait d'accord.
Formidable. Pronostic final, messieurs ?
Benoît Saint-Denis,
ouais. Ouais, soumission. Soumission, deuxième.
Je dirais KO. KO, deuxième round.
Et ben voilà, parfait. Moi, je dis soumission aussi, troisième round. Et dernier combat d'un Français, c'est Farizyam Le Revenant qui affronte l'invaincu. Fait ses débuts à l'UFC, Michal Figlak. Jérôme, je sais que tu as beaucoup travaillé sur ce combat.
Pas tant que ça. J'aime bien Fares. C'est un gars surprenant, qui peut faire très bien ou très mal. Je crois qu'il est à 2-2 à l'UFC. Si je me trompe, de défaite, de victoire. J'aime bien ce mec. Je pense qu'il est assez lucide sur à la fois son niveau et sur l'analyse de ses adversaires. C'est pas un combat facile. Clairement, j'aimerais bien qu'il.
Je pense que c'est probablement le combat le plus difficile pour un Français sur cette carte. Hein. Michal Figlak, excusez-moi, qui est polonais. On va dire que c'est un prospect. Il me semble qu'il a 25-26 ans. 8-0 en carrière. Franchement, assez impressionnant. Il était aux Cage Warriors. Le peu que j'ai vu de ce combattant, je ne l'ai jamais vraiment vu en difficulté. Attention, peut-être, parce que c'est son tout premier combat à l'UFC. Donc, il y a peut-être un petit peu de pression.
C'est pour ça que je disais que, globalement, je trouvais que la carte n'était pas franchement à l'avantage des Français.
Alors, sur ce match-up-là,
notamment sur ce combat. Et je pense que ça va être...
Ce combat n'est pas facile pour Fares.
Très compliqué pour Fares, ouais.
Qui est pour l'instant à 2-2 à l'UFC. Même si je crois qu'il a re-signé pour 4 combats, mais on sait que l'UFC peut vite couper des contrats. Ça ressemble un petit peu à un combat de la dernière chance.
J'ai peur
que si jamais il ne s'impose pas, j'ai peur que sa carrière à l'UFC se termine là pour l'instant. Rappelons quand même que c'est un combattant qui arrive à l'UFC à 22 ans quand même. Hein, c'était très tôt.
C'est compliqué, ouais. Mais bon, voilà, l'UFC a fait des choix. Je pense qu'ils ont... Après, moi, ce qui me gêne un peu sur cette carte, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu. Il y a pas mal de blessures. On sait que Taylor Lapillus a pas pu venir.
Ouais, Manon Fiorot surtout. Ouais.
C'est pété. Voilà, donc ils ont un peu signé des gars un peu rapidement, parfois. Enfin, même pas en fait. Il y a pas, à part William Gomis, il y a pas eu vraiment de nouvelles signatures. Mais voilà, ils ont fait. Ils ont mis sur la carte des gens qui étaient déjà à l'UFC sans signer trop de prospects. Et je trouve ça un peu dommage, mais. Bon,
jamais content, Jérôme, jamais content.
Et puis... Jamais content, ben non, mais voilà.
Et puis,
la vie est dure, c'est comme ça.
La vie est dure, mais toi, tu n'as pas les gros yeux d'Antoine qui te regarde pour dire, les gars, il faut conclure. Donc, petit point très très bref sur le combat qui ouvrira la main card, la carte principale entre Charles Jourdain, le Québécois, contre Nathaniel Wood. Ce combat-là risque d'être, d'avoir le bonus de combat de la soirée avec deux strikers.
Qui, on va dire, sont pas beaucoup sur la retenue.
Exactement. Donc, si vous avez vos billets pour l'UFC Paris, venez à l'heure d'ouverture pour la carte principale. Et puis préliminaire aussi, parce qu'il y aura pas mal de Français. On a terminé. Là, j'ai très, très peur d'Antoine. Donc, voilà. Donc, c'était le deuxième podcast de la semaine, le deuxième podcast KO de la semaine dédié à l'UFC Paris. Normalement, il devrait y en avoir d'autres pour cette semaine spéciale. Je le rappelle. On l'espère tous. À 22h30, le 3 septembre prochain, sur la chaîne L'Équipe, vous aurez droit à l'UFC Paris, tout simplement. Messieurs, merci beaucoup. Le podcast L'Équipe et KO de L'Équipe est disponible sur le site de L'Équipe et sur toutes les plateformes habituelles. À très vite.
Merci à tous. Ciao, ciao.
Adios.